Hello Grégory, et
Salut.
bienvenue dans ce petit temps d'échange ensemble. Je m'amuse toujours à essayer de trouver des séries un petit peu de thèmes et de sujets pour explorer dans ce podcast. La dernière série que j'essaye de pousser, c'est autour de la fiction, c'est autour des imaginaires, des nouveaux récits, enfin de tout ce travail-là. Et il y avait une autre partie de série que tu ouvres avec moi, qui est de se dire. Il y a déjà plein de gens qui font des podcasts depuis bien longtemps et qui rencontrent plein de gens qui ont plein de modèles de pensée et d'approches de la vie qui sont différents, surtout quand on est sur des sujets de société comme le tien, mais je te laisserai en dire un mot plus précis après. Et j'adorerais en fait pouvoir faire parler ceux qui font parler les gens pour pouvoir en gros sentir un petit peu qu'est-ce que ça vous fait de toutes ces discussions, tous ces échanges, toutes ces rencontres. Voilà, ça c'est l'intention de la discussion. Et
Ok, très
avant
merci.
que je me lance à te poser plein de questions, je veux bien que tu replaces rapidement qui tu es, ton podcast, à propos de quoi ça parle, l'intention qu'il y a derrière. Voilà, je te laisse.
Je me définis comme un analyste culturel, c'est-à-dire que j'essaye de comprendre comment la société évolue. Et moi, je suis un marketeur repenti, si on peut dire ça comme ça. J'ai fait du marketing, de la stratégie marketing et beaucoup de marketing digital, de transformation digitale pendant 15, quasiment 20 ans. Et en fait, j'ai une sorte d'épiphanie où je me suis dit que j'étais du mauvais côté de la barrière. Que le 21e siècle, ça pouvait pas être d'aider des marques à vendre plus ou d'avoir plus de followers sur Instagram. Et j'ai pris cette décision qui peut sembler un peu cool comme ça de l'extérieur, de se dire, ah bah tiens, je vais arrêter de faire du marketing, mais qui pour moi implique d'avoir zéro revenu. Et n'étant pas millionnaire, parce que j'ai pas créé de startup qui me permet d'être millionnaire, ça implique aussi de réinventer son modèle. Et je vais venir comment je fais ça après. Et comme tu le dis, donc j'ai un podcast. En réalité, j'en ai deux. Et le deuxième, c'est justement la réponse entre guillemets au changement. Le premier s'appelle Vlan et ça parle. Enfin, en tout cas, j'essaye d'aider les gens qui l'écoutent à être un peu plus sereins dans un monde VUCA, en polycrise. Donc j'essaye de comprendre comment ça bouge. Parce que moi, je crois que quand tu comprends comment ça bouge, tu as un peu moins peur. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir de catastrophes. Je pense qu'il y aura des catastrophes. Mais ça veut simplement dire que tu es au courant et donc tu t'y prépares un peu mieux. Et le deuxième podcast s'appelle Ping. Et c'est un podcast sur le leadership conscient. Et en fait, l'idée pour moi, c'est de me dire qu'en fait, je crois que les entreprises ont un rôle majeur à jouer dans la révolution qui est en cours, plus que les politiques, plus que les gens, entre guillemets. Parce qu'en fait, en raison des imaginaires, justement, tu faisais mention à ça, mais pas que des imaginaires, il y a aussi la réalité concrète de ce que les gens consomment. Et j'ai décidé d'ouvrir ce podcast pour montrer qu'il y avait des leaders qui allaient dans cette direction, que c'était la bonne direction. Et donc aujourd'hui, j'essaie d'accompagner des personnes en position de leadership à libérer leur puissance d'une certaine manière pour devenir des pionniers ou des visionnaires du 21e siècle. Et en fait, l'idée, c'est de se dire que si d'un côté, tu as la rentabilité financière ou la croissance financière, c'est pas exactement la même chose, mais et de l'autre côté, l'impact, on a tendance à opposer impact au climat et puis économie. L'idée, c'est comment je trouve le sweet spot entre les deux. C'est quoi mon positionnement, en fait? Comment je peux avoir de l'impact sans complètement sacrifier, évidemment, la rentabilité économique de l'entreprise, parce que sans rentabilité économique, il n'y a plus d'entreprise. Donc voilà, c'est vers ça que je me dirige. Donc comment je peux aider des entreprises à aller dans ce sens-là? Je fais d'autres choses, mais principalement c'est ça.
Ça m'amène à la première question, du coup, pour être dans le thème proposé. Est-ce que c'est le fait d'avoir animé ce premier podcast qui a forcément, du coup, façonné le deuxième podcast et là où tu as envie de te positionner en termes d'accompagnement, justement, de ce type de leadership?
Oui, hein? Clairement. En fait, Vlan, à l'origine, c'est un podcast de marketing. Si vous vous retournez aux premiers épisodes, les 50 premiers sans doute, maintenant ça fait 7 ans quasiment, donc, mais les 50 premiers sont sur du marketing. Et puis au fur et à mesure, moi j'ai tendance à dire que je me suis donné la liberté d'être moi-même. C'est-à-dire qu'en fait, pendant des années, j'essayais d'appartenir, j'essayais de comprendre les codes, etc. Donc j'étais beaucoup dans cette idée d'accumulation, de succès par l'accumulation. D'argent, de notoriété, etc. Et puis, bon, bah, une fois que j'étais arrivé à cet endroit, je me suis dit, mais en fait, c'est pas précisément ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'a toujours intéressé, finalement, c'est l'humain. C'est comme ça que j'ai fait du marketing. Et du coup, j'ai commencé à recevoir des sociologues, des philosophes, et puis, évidemment, des personnes qui s'intéressent au mouvement du monde, donc des historiens, des géographes, etc. Et là, ça m'a sensibilisé encore un peu plus à l'écologie, qui est un peu un gros mot aujourd'hui, parce que je crois que, en fait, enfin, ce que j'observe en tout cas, c'est qu'on n'a plus trop envie d'en entendre parler, parce que ça nous renvoie à notre impuissance. C'est-à-dire qu'en fait, on sait, à peu près tous, c'est-à-dire qu'en fait, le sujet écologie, finalement, écologie étant le discours sur la maison, en fait, je crois que c'est passé. C'est-à-dire que les gens sont à peu près au courant. Maintenant, il y a beaucoup de forces de résistance, et entre autres le déni, en particulier quand tu es face à une impuissance. C'est-à-dire que quand on te dit, bah, là, ça part vraiment en sucette, et que toi, tu sais que ça part en sucette et que tu peux rien faire, il n'y a rien de plus horrible, donc tu n'as plus envie d'entendre parler. Mais à ce moment-là, en fait, en tout cas, c'était en 2018, 2018, je pense, moi, je m'ouvre à ces sujets que je connaissais mal. Et en fait, je réalise un truc, c'est que plus je comprends et intègre les problématiques qui sont face à nous, plus que je me rends compte que moi, j'ai rien envie de sacrifier. Et en fait, je pense que c'est un sentiment assez humain de pas avoir envie de sacrifier quoi que ce soit. Et donc, j'en ai fait un livre qui s'appelle Insoutenable paradis, qui s'est assez bien vendu. Et où je me suis dit, finalement, c'est ça, ça va être ça ma transition. Ça va être ce bouquin et ça va me permettre, finalement, d'aider des boîtes à se transformer. Et alors, il y a eu deux éléments. Le premier, c'est que mon bouquin, il est sorti en mars 2020. Donc, c'était pas idéal. C'est pour ceux qui s'en souviennent pas, c'était une semaine avant le confinement. C'est-à-dire que la soirée de sortie du bouquin, c'était un jeudi. Et on était confinés un lundi. Donc, voilà, c'était...
Enfin, ouais, difficile d'arriver à faire un buzz avec une actu qui fait un buzz.
Donc, en fait, c'était une sorte de flop total. Ça n'a pas été un flop, finalement. C'était un best-seller. Il est sorti en poche en septembre, là, 2023. Mais ça a été un flop dans le sens où moi, je pensais faire plein de conférences, parce que c'est quand même mon métier de faire des conférences. Je pensais faire plein de présence média, parce qu'en fait, c'était un bouquin qui amenait l'écologie d'une manière différente. Pas du tout. Et le deuxième truc qui m'est arrivé, c'est que moi, ce que je propose et ce dont j'avais une sorte d'intuition, mais maintenant, je peux beaucoup mieux l'expliquer, c'est qu'on était censé, on doit changer notre rapport au monde. Moi, je parle de spiritualité de société dans le livre. Et je me suis retrouvé face à des entreprises, en tout cas à ce moment-là, en 2020-2021, qui m'ont dit « Comment tu peux nous aider à réduire l'empreinte carbone ?» Et là, j'ai réalisé qu'elles n'avaient rien compris. Parce que le problème, c'est pas évidemment l'empreinte carbone, c'est un problème, mais c'est pas le problème. Et que si elles partaient avec le mauvais problème à l'origine, elles pouvaient clairement pas tomber sur la bonne solution à la fin. Et c'est pour ça que j'ai lancé Ping, parce que je réalisais que beaucoup d'entreprises et beaucoup de gens encore dans le public général et sans doute des personnes qui nous écoutent là ont pas compris, parce qu'en fait les médias, les politiciens, les entreprises nous parlent de net zéro, de voilà comment réduire l'empreinte carbone, et si demain on y arrive, ben ça sera résolu, alors qu'en fait pas du tout. Ça sera partiellement résolu, certes, mais ça sera pas du tout suffisant. Et quand je dis on a envie de, en fait, ça peut sembler un peu étrange, mais la réalité, c'est qu'on n'a pas besoin de sacrifier quoi que ce soit, personne. Parce que si tu changes ton rapport au monde, si tu changes tes imaginaires, justement, ben, tu sacrifies rien parce que t'as plus besoin. Et ça, c'est aussi un truc qui est vachement important de comprendre, c'est-à-dire que les besoins qu'on ressent, qu'on a l'impression d'avoir, sont très majoritairement construits par du marketing, par les séries qu'on regarde, les films, les bouquins, la musique. Mais fondamentalement, personne n'a besoin d'avoir deux ou trois voitures par foyer. Personne n'a besoin d'avoir, j'en sais rien. En fait, tout le monde n'a pas besoin, en tout cas, clairement, d'avoir une machine à laver. Même si ça semble évident, la machine à laver, c'est pour ça que je prends cet exemple. Mais en réalité, alors à moins que tu aies 15 enfants, moi, la machine à laver, par exemple, elle doit tourner... une fois toutes les deux semaines. Donc, est-ce que moi, j'ai besoin d'une machine à laver en permanence? En fait, pas vraiment. Mais sauf que on nous a vendu ça, on nous a vendu la famille nucléaire, donc le fait de vivre avec papa, maman, les enfants, ou tout seul, éventuellement, qui sont des structures qui, d'abord, nous rendent malheureux, mais en plus, sont pas du tout, évidemment, écolo. Donc, en fait, on peut se rendre compte assez facilement que c'est pas forcément l'écologie punitive. Moi, je tiens pas du tout ce discours. C'est pas forcément l'écologie où on va devoir tout sacrifier. C'est juste qu'en changeant ton rapport au monde, tu vas pouvoir changer en fait tes attentes, tes besoins, et donc tu vas rien sacrifier. Et en fait, c'est un peu ça mon chemin.
C'est qui les personnes que tu as pu interviewer ou rencontrer qui t'ont accompagné dans cette évolution et ce changement? Parce que moi, de ce que j'entends, c'est vrai que c'est un énorme shift, parce que tu parles d'un modèle de fonctionnement qui était beaucoup influencé par le marketing, et toi, venant du marketing, du coup, ça a dû transformer complètement ton imaginaire du marketing. Et du coup, qui c'est qui t'a un peu guidé, entre guillemets, enfin, des pensées, des intentions qui ont pu t'aider à cheminer vers là où t'en es maintenant?
C'est compliqué comme question, parce qu'en réalité, et c'est ça qui va être intéressant là dans notre conversation, c'est que c'est pas qu'une question de climat, c'est pas qu'une question de biodiversité, c'est une question d'ensemble. C'est-à-dire que le patriarcat, ou en tout cas, enfin, je pense à cet exemple-là, mais le patriarcat, mais c'est un exemple important, ou en tout cas, le déséquilibre profond qu'on a à l'intérieur de chacun, homme et femme, entre notre yin et notre yang, ou on va dire dans le vocabulaire, mais j'aime pas utiliser le vocabulaire occidental, parce qu'on va dire par féminine, par masculine, mais en fait c'est pas génial de le genrer, parce qu'en fait c'est pas forcément ni féminin ni masculin, simplement on a tendance à le dire comme ça, donc masculin, donc de manière archétypale, la puissance masculine, c'est une puissance extérieure, donc la force, les muscles, tous les objets que tu vas pouvoir mettre autour de toi qui montrent que t'es puissant. Voilà, ça c'est la puissance archétypale masculine. De l'autre côté, t'as la puissance archétypale féminine, donc qui est une puissance plutôt intérieure. Et ben ça c'est complètement contrebalancé évidemment, et il faut qu'on développe de manière très forte notre puissance féminine. Donc juste pour répondre à ta question, parce que là j'ai bien réalisé que je répondais pas du tout et je te donnais pas de nom. En fait, ce qui est complexe, c'est que tous les entretiens, donc les je sais pas 400, 500 personnes que j'ai rencontrées, ont participé d'une manière ou d'une autre, à forger mes convictions. Ça a sans doute commencé, si je me souviens bien, avec un sociologue de l'imaginaire qui s'appelle Michael Dandrieux, qui est devenu un ami. Je pense que c'est les premiers épisodes qui me font un peu bouger. Mais alors après, pour te dire lesquels m'ont fait le plus bouger, c'est hyper difficile. Parce qu'en réalité, j'ai retenu plein de choses de plein de gens. Et en fait, j'ai construit des convictions au fur et à mesure de ces interventions, de ces conversations. Mmh. Que j'ai chaque semaine. Donc en fait c'est l'avantage d'avoir un podcast aussi, c'est que je lis énormément de livres parce qu'en fait généralement je lis les livres des personnes que je reçois. Et donc c'est très difficile pour moi de répondre à cette
question. Non mais c'est un peu ce que j'imaginais, dans le sens où quand tu arrives un moment où tu te retrouves à avoir tellement beaucoup d'informations qui viennent de plein de personnes différentes, que ton cerveau, il se retrouve à accrocher en fait des éléments que les gens partagent, et dans ta tête, ça fait des connexions sur différents concepts pour se créer tes propres récits ou tes propres compréhensions. Et du coup, Exactement. Ça me surprend pas du tout ce que tu dis là, parce que je trouve que c'est même intéressant l'exercice du podcast, ou l'exercice de rencontrer beaucoup de gens pour ça. C'est qu'arrive un moment en fait où du coup il y a des petits bouts des uns des autres et ça fait une espèce de gros système de pensée que tu t'appropries toi dans ta tête, et que tu peux ensuite réussir à repartager ou à en faire des choses avec ça, quoi.
Et d'ailleurs, je rebondis là-dessus parce que comme on évolue tous et toutes dans une culture qui est héritée des Lumières, on a tendance à aimer les experts. Lui ou elle est expert de ci ou ça, de la neuroscience, de l'histoire, de la géographie, de la géopolitique, du féminisme, enfin, peu importe quel que soit le sujet. Voilà. Et en fait, historiquement, en fait, c'était pas forcément comme ça avant. En fait, avant, on avait besoin d'avoir des généralistes de la pensée, j'entends. T'as toujours besoin d'un forgeron, d'un professeur. Mais, des généralistes de la pensée, parce que en réalité, tout est lié. Et justement, tu vois, c'est peut-être là, et ça va être un point qui va être intéressant à discuter, c'est que, et je l'ai mentionné tout à l'heure un tout petit peu, mais la compréhension qu'on en a aujourd'hui, c'est que il y a X problèmes, et si on les résout un par un, on va s'en sortir. Donc, par exemple, les problématiques qui ont été relevées par l'ONU, je crois qu'il y en a 21 de mémoire. Et bon, bah, si on les résout une par une, ça va fonctionner. Ça, c'est hérité, c'est ce qu'on appelle l'analyse. Donc, l'analyse, c'est finalement découper tout en morceaux pour pouvoir tout expliquer. Et l'analyse, c'est génial. Ça a permis la médecine moderne, entre autres, ça a permis plein de choses qui, effectivement, fonctionnent bien. Mais, parce qu'il y a un mais, quand tu es dans une situation de polycrise ou de crise systémique, c'est-à-dire, en fait, tout est en crise, c'est la crise du tout, ben finalement, ça fonctionne plus. C'est-à-dire que, et ça, c'est un exemple qu'un de mes invités m'a donné, c'est que si, par exemple, tu tombes et tu te fais mal au bras, voilà, c'est un peu écorché, bon, tu mets un pansement et puis ça va bien se passer, tu vois, c'est pas un problème. Et ça, c'est l'analyse, pour le coup, ça marche assez bien. Si, par exemple, tu as mal au crâne, que tu as mal au ventre, que tu as aussi un petit problème de peau, tu peux te dire, bah, je vais prendre un doliprane, je vais prendre de la tisane et puis je vais mettre de la pommade. Sauf que peut-être que tu as un cancer et dans ce cas-là, en fait, tu peux faire les trois trucs, ça va pas marcher. Une autre manière de l'expliquer et qui peut peut-être mieux fonctionner pour certaines personnes, si tu es dans ta famille et qu'il y a un problème avec, par exemple, le frère de ton père, enfin un oncle ou une tante, ça a des impacts sur les grands-parents, ça a des impacts sur les frères et sœurs, ça a des impacts sur les petits-enfants, ça a plein d'impacts. Tu peux pas te dire, bon bah si je remplace l'oncle, tout est résolu. Parce qu'en fait, ça fonctionne pas. Ce qui compte et ce qui va être important, c'est de travailler sur les liens. En fait, c'est quoi les liens et c'est quoi les connexions et en fait, c'est ces liens-là qui sont abîmés. Et de la même manière, pour le climat ou pour les problématiques qui sont face à nous, c'est pas qu'une question de climat. En fait, il faut qu'on retravaille notre lien. Le lien à nous-mêmes, aux autres, à la nature. Et au vivant de manière générale en réalité. Et en fait, c'est ça qu'on a un peu mal compris. Et c'est pour ça que c'est important d'être généraliste d'une certaine manière et pas expert. Enfin, c'est important d'avoir les deux hein, en réalité, mais c'est quand même pas mal d'être généraliste parce que le généraliste, il peut justement créer ces connexions entre la neuroscience, le féminisme, le climat, la géopolitique, etc., etc. Et je crois que c'est en faisant ces liens qu'on arrive à mieux tisser et à mieux comprendre les problématiques d'interaction. Donc c'est aussi ça ma dynamique, la manière dont je réfléchis.
Tu te rappelles du moment où ça a shifté un peu dans ce mode-là dans ton cerveau? Je te donne un petit bout de vie personnelle pour pouvoir illustrer ça, mais moi je me rappelle c'était il y a je pense 10 ans maintenant où je me retrouve à être frustré sur mon ordinateur un soir parce que je venais de passer une énième journée à travailler avec un groupe de travail dans une entreprise, dans un grand groupe. Où du coup, ça s'était super bien passé, c'était génial. Mais j'avais fondamentalement toujours le même sentiment de me dire, on n'a pas travaillé sur le vrai problème, en fait. Et du coup, il faudrait que je puisse remonter à la direction et en même temps, après, leur faire comprendre que, en fait, le problème, il est connecté à plein d'autres parties de la boîte et toutes ces choses-là. Ça, c'était après avoir passé 10 ans à dire, OK, vous avez un problème, je vais aider à travailler là-dessus. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, mon travail de designer, parce que du coup, j'étais plutôt designer et facilitateur de groupe, je me suis dit, mais en fait, mon travail, ça doit être plutôt de travailler sur l'organisation de l'entreprise, quoi. Donc, du coup, ça doit bien avoir un nom, ce truc-là. Donc, design system, je sais pas. Donc, j'ai commencé à taper design system dans Google. Du coup, ça m'a ouvert la page sur Wikipédia, sur la systémique. Et là, j'ai commencé à plonger dans la systémique, la complexité. Et je me rappelle encore de cette sensation très physique et émotionnelle de, waouh, ça y est, je viens de toucher le truc qui explique comment mon cerveau fonctionne et qui explique très clairement pourquoi ça fonctionne pas dans les entreprises et pourquoi ça fonctionne pas au niveau de notre société. Parce que il y a ces silos, il y a ces cloisons qui empêchent ce fonctionnement. Et il y a ce côté très spécialiste, comme tu dis, qui va pas forcément aller discuter avec le mec qui est biologiste. Et c'était au même moment de ma vie, à peu près, où j'avais commencé à faire un petit podcast sur la curiosité et où justement je discutais avec des gens qui étaient dans l'entrepreneuriat, avec des biologistes, avec quelqu'un qui était expert dans la questionologie, avec un mec qui venait monter une salle de crossfit. Enfin, tu vois, des trucs complètement écartés, mais qui pour moi, du coup, prenaient sens, quoi. Est-ce que toi, tu te rappelles ce moment, où ton cerveau, du coup, s'est activé en mode connecté un peu à tout et à faire les liens, justement, et les relations?
Alors moi, j'ai pas de moment comme ça, comme toi. En fait, je pense que, en ce qui me concerne, c'est parti d'une intuition. En fait, c'est d'abord parti d'un lâcher prise, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire que je me suis donné la liberté d'être moi-même. Et ça, c'est vraiment de manière post-rationnelle. je regardais mon podcast et je me disais, mais c'est bizarre, en fait, je parle plus du, enfin, en fait, je parle de moins en moins de marketing et c'est chelou. parce que je le faisais pas intentionnellement. Je m'étais pas dit, tiens, je vais changer de sujet, voilà, ça va se passer comme ça. Je m'étais juste dit, tiens, cette personne, moi, je suis mon instinct d'une certaine manière, ou en tout cas, je suis ce qui m'intéresse. Et donc, ce qui m'intéressait, c'est de parler avec des sociologues, des philosophes. Et en fait, au fur et à mesure, je me disais, bah, tiens, c'est bizarre, parce qu'en fait, ça se décarte de plus en plus du marketing. Donc, j'essayais de recoller d'une manière ou d'une autre avec le digital, mais en fait, je voyais bien que ça se séparait. Et il y a Pierre-Henri, donc, qui dirige le studio d'enregistrement dans lequel j'enregistre, et qui est un ami aussi depuis longue date, qui me dit, bah, donne-toi la liberté d'être toi-même. En fait, t'es en train de faire ça. Et ça a été un moment important. Et après, sur le côté systémique, moi, c'est pas du tout une lecture ou quoi que ce soit. C'est juste que dans mes croyances, il y a une part spirituelle importante, pas religieuse. Je suis même pas baptisé. Tu vois. Enfin, on est d'obédience catholique, mais je suis même pas baptisé. Donc voilà. Donc c'est pas du tout religieux, mais spirituel. Et en fait, assez naturellement, ce qui m'a semblé faire du sens, c'était le lien. Et c'est pour ça qu'en fait au début je disais que Vlan c'était un podcast sur le lien à soi, aux autres, à la nature, donc et en fait je le disais comme ça et je me suis rendu compte a posteriori que ce triple lien il avait été écrit dans la Gita qui est le bouquin qui est original de toutes les religions aujourd'hui mais je m'en suis rendu compte a posteriori aussi voilà, c'était plutôt une intuition. Et en fait je crois que d'une certaine manière, sans parler dans des trucs trop ésotériques, on sait tous, d'une certaine manière, ce qu'il faut faire et où est-ce qu'il faut aller. On le sait, c'est à l'intérieur de nous. Et parfois, tu te fais, ah, mais putain, en fait, il y a des gens qui ont déjà pensé ce truc et qui l'ont déjà écrit. Et moi, ça s'est plutôt passé comme ça que dans une lecture particulière où je me dis, ah, voilà, c'est ça. Ou dans une discussion particulière. Je pense que les discussions et les lectures, elles ont renforcé un point de vue, elles ont affûté un point de vue. Plus que, ou en tout cas un point de vue, oui c'était un point de vue finalement, une intuition, plus que de me créer un point de vue. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, ça fait une petite...
Je vois clairement, moi quand je dis ça m'a éclaté le cerveau de tomber sur la systémique, c'est parce que c'était un peu comme, tu sais des fois quand tu découvres un truc et t'as l'impression en fait que tu l'as toujours su, que c'était toujours là, mais tu l'avais pas forcément rationalisé ou intégré. Et du coup, en fait, ça m'a permis de me dire, ah ouais, mais en fait, du coup, mon fonctionnement a tout connecté dans tous les sens, c'est normal, en fait.
C'est normal.
Et du coup, tu disais le mot aussi que je trouve intéressant, c'est le mot de l'intuition. Et en fait, pareil, j'avais jamais vraiment connecté à l'époque que j'avais un fonctionnement qui était plutôt intuitif. Surtout que, je pense que on pourra ouvrir un petit peu un bout de discussion là-dessus, mais c'est pas forcément quelque chose qui est valorisé ou qui est complètement accepté dans notre société. Ça va beaucoup avec l'expertise, avec la rationalité de la science, avec tous ces sujets-là. Et du coup, se dire, OK, en fait, ça, ces connexions multiples, cette vision un petit peu des relations interconnectées, c'est très fortement aussi lié à l'intuition, qui est une autre forme d'intelligence qu'on a à l'intérieur de nous. Et du coup, cette forme d'intelligence-là, elle permet de faire des choses qui sont géniales, mais c'est vrai qu'il faut réussir à l'accepter et l'intégrer déjà pour soi. Et puis ensuite, après, se rendre compte que c'est quelque chose qui est intégré dans d'autres traditions depuis très, très longtemps, et qui a déjà été posé dans des livres par plein de gens. Donc, c'est génial de pouvoir s'y reconnecter dessus pour se dire, oui, en fait, on n'est pas en train de réinventer la roue. On est juste en train de se rappeler des choses qu'on avait déjà, en tant qu'humanité, posées quelque part. Et après, la question qui me vient là, c'est pour revenir sur le présent par rapport à ça, c'est moi, ça, par exemple, je l'ai intégré. Toi, tu me dis que tu l'as intégré aussi. Je pense qu'on se rejoint sur un point par rapport à ce que tu as dit, qui est que pour que la société puisse fonctionner de manière pérenne et puisse réussir à être tout régénérative. En tout cas, moi, c'est le terme que j'aime utiliser aussi. Quand il y a besoin de pouvoir réduire ce qu'on dégénère et d'augmenter ce qu'on régénère, il y aurait besoin d'avoir cette approche-là. Et donc, du coup, une approche qui est beaucoup plus intuitive, une ouverture à la spiritualité aussi, une approche qui est systémique. Et donc, ça passe par l'entreprise. Moi, personnellement, tu vois, j'ai évolué, du coup, comme je disais, à me dire, faut que je travaille sur les systèmes. Donc, du coup, les systèmes d'organisation. Donc, avec les directions d'entreprise. Donc, je fais de l'accompagnement de direction. Que je pense que c'est là où ça se joue. Toi, tu me disais que t'étais un peu sur sur la même compréhension que ça se joue avec les entreprises et les dirigeants d'entreprise.
On arrive à la même conclusion.
Comment est-ce que toi, tu arrives, à faire comprendre ou à faire intégrer, en tout cas, ces dimensions de l'intuition, de la complexité, de la spiritualité à des dirigeants d'entreprise, parce que c'est pas forcément évident pour tout le monde. Et du coup, ça me semble être l'un des pas pour pouvoir réussir à avoir une vraie approche complexe sur leurs organisations.
En fait, je voudrais revenir sur deux choses que tu as dit, d'abord l'intuition et puis ensuite le fait d'intégrer, le mot intégrer. L'intuition, en fait, pour moi, il y a deux niveaux d'intuition. Si tu parles avec des neuroscientifiques, ils te diront, en tout cas, Sam Akaraki sur un podcast m'a dit, l'intuition, en fait, c'est un ensemble d'expériences passées sur lesquelles tu te bases pour prendre des décisions assez rapides. C'est son système 1 qui se met en place. Le système 1, c'est le système que le cerveau aime bien, c'est-à-dire un système qui demande très peu d'énergie, parce que le cerveau consomme énormément d'énergie. Donc, on essaie de pas aller trop dans le système 2, c'est-à-dire le moment où tu réfléchis. Et donc, le système 1, c'est toutes tes automatismes, et c'est pour ça que parfois, on fait des erreurs, d'ailleurs, avec notre système 1. Mais pour moi, alors ça, c'est une vision très scientifique de ce qu'est l'intuition. L'intuition est donc un ensemble d'expériences passées qui te permettent de prendre des décisions rapides. Moi, je crois que, mais bon, c'est une croyance, hein, attention, qu'il y a des mémoires transgénérationnelles, d'une certaine manière, en tant qu'humain, en tant qu'être humain. Il y a des choses qui se passent dans nos corps et qu'on sait, d'une certaine... je ne sais pas comment l'expliquer, parce que c'est là, pour le coup, je suis à plus ésotérique, mais pas tant que ça, parce que je pense que on sait à peu près ce qui est bon pour nous, ce qui n'est pas bon pour nous, et je pense que vraiment, notre corps, il apprend et il sait les choses, en fait, d'une certaine manière. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le fait d'intégrer. En fait, pour moi, il y a trois niveaux avec l'information, on va dire une information. Il y a le fait de savoir, qui est là, on va dire. Je sais que il y a des problématiques de changement de climat. Ensuite, il y a un deuxième niveau qui est là, qui est je comprends. Je sais pas pourquoi il y a des cœurs qui se mettent en place.
C'est arrivé pile poil au bon moment.
Mais je comprends ce qui est en train de se passer. Comprendre, c'est une phase qui demande énormément d'énergie. C'est-à-dire, en fait, ça demande de la recherche, ça demande de comprendre qu'il y a des polycrises, que tout est interconnecté, que c'est complexe, que, en fait, c'est systémique. Ce que tu disais tout à l'heure. Et la systémie, c'est l'analyse des systèmes complexes, donc c'est extrêmement compliqué. Et puis, trois, et c'est la partie sans doute la plus difficile, c'est intégrer. En fait, c'est-à-dire que c'est pas juste que je comprends, c'est que je l'intègre. C'est-à-dire que j'agis et tout ce que je dis, etc., ça part de cette essence-là. Et l'intégration, ça, c'est la partie qui est la plus complexe. Et donc, pour ce qui concerne les leaders, et pour répondre à ta question, pardon, je fais des digressions, mais ça me semble important.
Ça donne du contexte, c'est parfait.
Ouais, voilà. En fait, d'abord, je réalise que tous les CEOs que je reçois sur Ping, quasiment tous, me parlent tous de spiritualité. Donc, je pense que c'est un sujet qui est un peu en train de se détendre. Et j'ai fait un post sur LinkedIn qui a pas mal tourné sur la spiritualité et le leadership. Et donc, tu vois bien que ça se détend et les commentaires montrent que ça se détend. Parce qu'en fait, je l'approche pas de manière complètement ésotérique, je crois pas. J'ai quand même des bases, tu vois, de neurosciences. Enfin, encore une fois, moi, je suis spécialiste de rien, hein, donc je généraliste de tout. Donc, comme je reçois beaucoup de gens sur plein de sujets, du coup, je picore plein d'éléments un peu partout, ce qui peut sembler très léger pour plein de gens, parce qu'on est tellement dans une culture d'expertise que du coup, celui qui picore, bah forcément, il n'est pas très crédible. Moi, je crois au contraire qu'on a besoin de ce genre de profil. Je parle pas spécialement de moi, évidemment, mais je crois qu'on a vraiment ce genre de profil.
C'est un vrai généraliste sujet.
Qui sont capables de picorer. Et en fait, de la même manière que j'ai un pied dans le business, un pied dans l'écologie, et que je suis pas du tout un militant écolo, j'ai aussi un pied dans la spiritualité, un pied dans le monde concret, réel, tangible, celui qu'on aime bien, là, d'analyse. J'ai un pied des deux côtés, et donc je pense que c'est rassurant. Et après, moi, la manière dont j'explique les choses, souvent, je réfère au corps humain, parce que c'est sans doute l'écosystème qu'on connaît le mieux, qui est un écosystème complexe, comme tous les écosystèmes. Parce que la planète, le problème, c'est que, en général, c'est trop compliqué, c'est trop loin, et c'est trop grand, et donc on ne comprend pas. Le corps humain, bon, on en a tous un, on ne comprend pas non plus très bien comment ça fonctionne au niveau individuel, à moins d'être médecin, mais quand même, on a 3-4 bases. Une des bases, c'est cette histoire de 3 degrés, tu vois, les 3 degrés, bon, généralement, quand tu expliques que les 3 degrés sur la planète, sur l'écosystème Terre, c'est très complexe, les gens comprennent pas mal en quoi ça peut avoir un impact. Tu vois, il va y avoir plein de gens qui vont penser à la météo. Il va y avoir, même si ce discours, il est combattu, bien sûr, mais par exemple, là, on arrive à 1,5 degré. Qu'est-ce que ça fait, 1,5 degré? Tu vois, j'en sais rien. Enfin, c'est un peu flou, surtout que tu vois pas dans, enfin, dans ta vie quotidienne. Enfin, moi, par exemple, là, est-ce que je vois qu'il y a 1,5 degré de plus? Bon, non, pas vraiment. Enfin, tu vois, je fais pas la différence, quoi. Vraiment, c'est pareil pour moi. Si tu prends ton corps humain, tu passes de 37 à 40, donc 3 degrés, tu sais que ton écosystème corps, il est mort. C'est au bout d'une semaine, t'es mort. Ça marche pas. Si tu passes à 1,5 degré de plus, 37 à 38,5, bah, t'es quand même bien malade, en fait, hein. Enfin, t'es pas au mieux de ta forme. Et donc, je crois que cet exemple-là, par exemple, il permet de comprendre des choses. Quand tu parles d'organisation, de se dire que 80%, 90% de ton corps, ce sont des bactéries qui n'ont rien à voir avec ton corps et que sans ces bactéries, tu peux pas vivre. Ça permet de mieux comprendre que, en fait, chaque élément de la biodiversité, donc chacun des animaux, que ce soit les chenilles, les insectes, ce que tu veux, les humains aussi, sont importants dans l'harmonie de cet écosystème. Une autre information qui peut être intéressante, c'est se dire, par exemple, que 80% de l'information va du corps vers le cerveau et pas l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas ton cerveau qui décide de tout, c'est ton corps qui décide par lui-même. Par exemple, tu penses pas à respirer, tu penses pas à digérer, tu penses pas à tous ces trucs-là, en fait. C'est ton corps qui dirige. Donc, du coup, tu comprends qu'une organisation organique, ça fonctionne quand même vachement mieux sur un système complexe que qu'une organisation pyramidale. Et comme ça, en fait, tu peux prendre plein d'exemples avec le corps humain qui permettent d'ancrer des pensées qui me semblent, moi, essentielles et qui permettent d'être... C'est beaucoup plus accessible et compréhensible parce qu'en fait, ton corps, tu le connais à peu près, donc tu comprends. Tu vois, c'est pour ça que je t'ai pris l'exemple de tomber malade, du cancer. C'est pour ça que, voilà, je prends plusieurs exemples qui sont liés au corps parce que du coup, ça rend les choses très concrètes pour les gens. Et du coup, tu comprends qu'un écosystème, c'est complexe et que... Et pareil, tu vois, quand tu tombes malade, tu vois, pour arrêter là-dessus, mais... et ça, c'est un truc que les gens n'ont pas bien compris, je pense, c'est qu'ils ont l'impression que les crises dans lesquelles on arrive, elles vont être linéaires, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, ça va augmenter, que ça va être de plus en plus compliqué. Et majoritairement, on m'a encore dit ça hier en disant « Oui, mais enfin, nous, finalement, on sera mort quand ça sera vraiment problématique. » Et je disais à la personne, en fait, je pense pas, malheureusement. En fait, ça va monter de manière très rapide parce que comme quand t'es malade, au début 37, 38, ton corps résiste et donc tu fais comme s'il y avait rien. Et puis d'un coup, tu tombes malade et là, c'est la cata. T'es au lit et en fait, t'es HS, quoi. Comme on a pu tous expérimenter un jour dans notre vie, évidemment. Et je pense que c'est ce qui va un peu se passer pour nous. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, l'écosystème Terre, finalement, il tient le coup. C'est-à-dire que tu te rends pas bien compte de la différence. Il y a de plus en plus de jours de canicule, etc. Mais bon, c'est une semaine, on peut traverser le truc, en Europe. Et puis d'un coup, ça va s'emballer. Et ça, là, je pense que les gens sont pas très prêts parce que ça va avoir des impacts assez importants. Moi, je crois vraiment profondément que les 20 années qui arrivent, je dis 20, mais en fait, je sais pas précisément combien de temps, vont être extrêmement complexes. Complexe dans le sens où ça va être très dur. Et ça, pour le coup, j'ai pas trop d'espoir sur le fait que... Enfin, pour moi, c'est même pas une sorte de prédiction ou quoi que ce soit. C'est une évidence que ça va être très compliqué parce que finalement, on a déjà cassé l'écosystème. Donc, il y a aucune chance que ça puisse se relever dans les 20 prochaines années. Ça, c'est pas possible. Je vois pas très bien à quel moment ça sera pas le cas. Donc, j'ai pas l'impression d'être pessimiste. J'ai l'impression d'être plutôt réaliste là-dessus. Après, ça veut pas dire que l'humanité va disparaître, etc. Ça, je pense pas. Mais par contre, oui, ça va être très compliqué. Et finalement, pour répondre à ton point aussi, qui était comment t'amènes des leaders sur la spiritualité, pour moi, en fait, il y a 4 phases quand tu veux transformer ton organisation, quand tu veux devenir un leader éclairé, visionnaire, pionnier. Il y a une phase de compréhension des polycrises, donc c'est la première phase. La deuxième phase, ça va être une phase de déconstruction des croyances. Et ça, c'est hyper important aussi. La troisième phase, ça va être une phase d'introspection. Parce qu'en fait, si tu regardes pas à l'intérieur de toi, si tu te poses pas la question de qu'est-ce que tu as envie de laisser à la société avec un grand S, avec un petit S, de quoi tu seras fier sur ton lit de mort, est-ce que vraiment fondamentalement tu as envie d'être heureux, etc., etc. Tu peux pas arriver à l'endroit. Et puis quatre, transforme ton organisation. Mais tu peux pas. Et je sais pas, on n'est pas obligé d'utiliser le mot spiritualité, introspection, qui peuvent faire peur. Mais si tu ne te poses pas un certain nombre de questions sur toi-même, tu pourras clairement pas arriver à cet endroit. C'est impossible.
Je te rejoins. Moi, c'est pour ça que je travaille justement. J'ai pas non plus trouvé le système parfait pour arriver à faire bouger les choses le plus possible. Mais en tout cas, je te rejoins sur le fait qu'il y a ce travail individuel à avoir en tant que leader intérieur avant de pouvoir travailler sur le reste. Parce que moi, souvent, quand je travaille avec des dirigeants, il y a certains, par exemple, qui sont dans la première interaction, je vois qu'ils sont pas connectés non plus à leur propre corps, en fait. Il y a un côté très dégénératif sur leur propre corps. Et du coup, en partant de là, ça oriente toutes les conversations derrière, parce que ça veut dire qu'il y a une déconnexion aussi par rapport à son organisation, par rapport à la vision, par rapport au bien-être des collaborateurs, enfin tout, quoi. Et donc, du coup, c'est là où souvent, je peux pas, en l'état, travailler sur le sujet qui est apporté, la problématique qui est annoncée sur l'organisation, parce qu'il y a un travail à avoir un peu plus en profondeur et sur cette part individuelle. Donc, c'est là où je vais rediriger vers des amis à moi qui sont plus sur cet accompagnement individuel. Et où, du coup, je dis à mes amis, quand toi, tu as des dirigeants qui sont prêts à travailler sur leur organisation, c'est à ce moment-là où, du coup, on peut y aller. Et puis ensuite, après, moi, je suis comme toi, je suis un généraliste aussi. Et donc, du coup, mon rôle, entre guillemets, c'est de pouvoir aider à comprendre un peu toute la systémique. Et puis ensuite, quand il y a des points d'acupuncture à mettre sur l'organisation, je veux dire, je connais des personnes qui savent faire très bien ça. Et du coup, il faut réussir à coordonner tout ce petit monde pour qu'on puisse bouger. Mais par contre, oui. Je vois la phase de on va dire de sensibilisation où il y a beaucoup de monde qui s'active dessus depuis des années. Je pense que comme tu disais, elle a fait son travail, mais c'est vrai que le fait d'arriver à redescendre sur une compréhension de choses qui sont complexes, là moi perso, je sais pas ce que toi t'en penses, mais je trouve que ça coince beaucoup à ce niveau-là, parce qu'en fait, il y a aussi les limites du système actuel dans lequel on est, qui est qu'un leader, un dirigeant ou n'importe qui, en termes d'énergie et de temps, c'est très peu disponible. Et donc, du coup, quand il faut rentrer sur des sujets complexes, c'est OK, ça a l'air important, mais on va le faire venir pour plus tard. Ou je vais déléguer ça à quelqu'un d'autre dans ma boîte, la personne qui a la direction RSE ou quoi que ce soit, qui va aller faire des parcours transformatifs qui vont lui éclater le cerveau et le cœur. Et ensuite, quand cette personne, elle va venir rapporter ça à la direction générale, elle va dire oui, alors il faut changer au niveau de l'intention. Elle va même utiliser des fois un vocabulaire qui est différent. Et donc, du coup, le dirigeant, là, il voit qu'il y a un décrochage. La personne directeur RSE, elle est un petit peu frustrée et ça crée des décalages comme ça. Mmh. Et tu vois, j'ai l'impression qu'il y a des zones comme ça de travail qu'il faut avoir. Et c'est vrai que discuter de ça entre généralistes ou avec plein de gens dans les podcasts, j'ai l'impression que ça permet de voir émerger peut-être des petits points de solution. Je sais pas, toi, ce que tu ressens par rapport à tout ça.
Moi, j'utiliserais pas le mot de solution, d'abord, parce que je pense qu'il n'y a pas de solution. Ça peut sembler désespérant et en même temps, pour moi, c'est un énorme espoir de se dire il n'y a pas une solution. La solution, enfin le mot solution, pour moi, il est très lié à cette approche analytique. Pour ceux qui n'ont pas écouté le début à l'analyse, donc c'est découpé tout en morceaux pour tout expliquer de manière analytique. Je pense qu'il y a un changement de rapport. Après, pour revenir sur ce que tu dis, tu peux pas convaincre tout le monde. Les gens qui sont pas prêts, tu pourras pas les convaincre. Et c'est pour ça que j'ai lancé ce podcast. Parce que ça te montre comment des leaders, de manière imparfaite, sont sur ce chemin. Et en fait, comme l'humain, en tout cas moi c'est ma compréhension, comme l'humain est finalement un animal social, en fait on ne fait que ce que les autres font. Et ça, je peux évidemment te prendre plein d'exemples, mais en passant par commander au restaurant jusqu'à mettre son masque dans la rue quand c'était la période du Covid, ou l'enlever d'ailleurs, dans les deux cas. En fait, on est des animaux sociaux. Et sur ce qui concerne l'impact, le problème, c'est que dans l'imaginaire collectif des leaders, il y a Patagonia, et puis il y a toutes les autres. Et du coup, quand tu dis, tiens, regarde, Patagonia fait ça, ça n'inspire personne. Ça n'inspire personne parce que ça serait comme si toi, tu n'avais jamais joué au tennis, c'est ce que je te disais. Tiens, regarde, Serena Williams, elle joue super bien au tennis. Et tu la regardes et tu te dis, super pour elle, tu vois. Mais moi, en fait,
je vois pas ce que je peux en faire.
Moi, j'ai jamais été sur un terrain de tennis. Donc, en fait, c'est pas inspirationnel parce que c'est trop loin, d'une certaine manière. Et du coup, t'as vraiment besoin d'avoir des personnes qui sont plus proches de toi, donc sans doute qui parlent la même langue, mais aussi qui sont imparfaits, même si je crois pas que le modèle de Patagonia soit parfait par ailleurs, mais en tout cas, tu vois bien qu'ils essayent, qu'ils tentent. Et ça, à mon sens, c'est beaucoup plus inspirationnel Et du coup, ça motive des gens à s'intéresser à la question, à se poser des questions qui ne s'étaient pas nécessairement posées avant. Et c'est tout le travail que je fais sur ce podcast et du coup sur LinkedIn pour que des questions différentes arrivent dans la tête des gens. Et effectivement, c'est important que le leader de la boîte soit leader, c'est-à-dire qu'il ait cette expertise, cette autorité de vision et pas justement une autorité d'expertise. Comme on était dans une logique très flat finalement, fin du XXe siècle, c'était de la productivité et donc il y avait besoin d'avoir de l'autorité d'expertise. Je sais comment ça marche, je sais ce qu'il faut faire. Et dans certaines boîtes, des très grosses boîtes, tu as encore des CEO, des boîtes cotées de plusieurs milliards, dizaines de milliards de chiffre d'affaires, qui prennent des décisions sur la couleur de la pub, la couleur de la PLV, la couleur d'un packaging. C'est complètement dingue. C'est-à-dire que comment un CEO d'une boîte cotée importante peut encore prendre des décisions sur des choses qui sont pas du tout de son ressort, qui sont des sujets d'expertise. Donc, y a des gens qui sont experts sur les couleurs. Ben, fine, tu vois que ce soit leur job. Mais le CEO, lui, son métier, son autorité, elle doit être dans la vision. Et tu peux pas avoir de vision si tu travailles pas sur ces choses-là personnellement, profondément. Et c'est pour ça que je parle de libérer de la puissance pour devenir un pionnier ou un visionnaire. C'est que je crois profondément que demain, tu pourras pas être un leader si t'es pas, entre guillemets, éclairé. Alors, pas au sens des lumières, parce que du coup, on a compris que c'était un peu en opposition.
C'était l'éclairage.
Enfin, pas en opposition, inverse, mais dans le prolongement des lumières. Ouais. Je crois qu'on a beaucoup simplifié les lumières par ailleurs, mais voilà. Mais ouais, un leader visionnaire. Enfin, un leader visionnaire, c'est d'ailleurs, c'est complètement débile de dire ça, parce qu'un leader est censé être visionnaire. Tu vois.
Ouais, mais je te rejoins sur le fait que le travail de vision, tu vois, c'est pour ça que j'ai aussi cette autre série de podcasts sur justement le travail de la vision, le design, le travail de fiction, le travail imaginaire, du fantasme, du rêve. C'est que ce modèle de pensée, la pensée rêve, la pensée vision, ou la pensée futur, comme certains l'appellent quand on travaille plus sur le futur, c'est pas forcément quelque chose qui est intégré non plus, tu vois. J'entendais un podcast récemment de l'Institut des Futurs Souhaitables qui discutait avec Damasio, je crois, et il faisait une sorte de prospective en disant que la société de demain, il faudrait qu'il y ait un ministère des futurs. Tu vois, pour le côté d'intégrer vraiment cette pensée, penser le futur, en gros, comme étant une entité nécessaire. Et donc, ça fonctionne aussi pour une organisation d'avoir cette entité nécessaire. Mais comme tu dis, normalement, cette entité, bah, c'est censé être principalement le CEO. Mais vu que le CEO, du coup, il avait besoin de pouvoir gérer toutes les dimensions jusqu'à la couleur qu'il allait avoir sur le produit, parce qu'il y a cette notion justement d'expertise ou très technique ou très opérationnelle et du mal à lâcher en termes de prise de décision. Et ben, du coup, le côté vision, il a un peu été mis de côté, en effet. C'était vraiment plus un développement économique avec des OKR qu'il faut suivre et des indicateurs, mesures purement économiques. Et là, on est en train de... Est-ce que tu sens vraiment, toi, dans tes rencontres avec tes dirigeants, que tu as dans le podcast ou même plus largement, qu'il y a, comme tu dis, il y a une ouverture sur la spiritualité, ce qui est déjà une chose assez merveilleuse, je trouve. Ouais. Parce que souvent, ceux qui étaient dans le business devaient ne surtout pas parler de spiritualité parce que ça faisait complètement allumé et donc, du coup, on t'écoutait même plus. Alors que maintenant, du coup, il y a même des chamans en entreprise et toutes ces choses-là. Donc, il y a quand même quelque chose qui bouge vraiment, quoi. Donc, c'est
ça
cool.
Ça bouge, ouais.
Est-ce que toi, tu sens qu'autour du travail de la vision, de cette pensée un peu plus imaginaire et future, il y a aussi quelque chose qui se passe au niveau des dirigeants? Il y a une vraie recherche de ça parce qu'il y a besoin aussi d'avoir une recherche de sens, de donner du sens aux gens qui travaillent dans les entreprises. Tu sens que ça bouge dans ce sens?
Je pense que ça bouge parce que les dirigeants, avant d'être dirigeants, sont des humains. Et que, comme tous les humains, en tout cas en Occident, et des gens qui sont éduqués, pour la majorité, pas tous, ils sentent bien qu'il y a un truc qui cloche. Parce que l'écologie a fait son travail. C'est-à-dire qu'on a une prise de conscience et je vais utiliser un mot encore un tout petit peu ésotérique, mais il y a une question d'écologie intérieure. Tu parlais d'avoir du sens, d'avoir de l'impact. Moi, j'aime bien cette notion, tu vois, quand je parle de déconstruction, de bonheur. Je fais beaucoup l'exercice en conférence et je demande aux gens qui n'a pas envie d'être heureux dans cette salle. Peut-être que les gens qui nous écoutent peuvent se poser la question. Est-ce que moi, j'ai envie d'être heureux? Et bon, bah, généralement, 100% des gens veulent être heureux. Sans doute, les gens qui nous écoutent se disent, bah oui, moi, bien sûr que j'ai envie d'être heureux. Ou heureuse. Et alors là, du coup, tu t'intéresses aux études sur le bonheur. Puisque il y a plein d'études, en particulier cette étude de Harvard qui était faite, qui est la plus longue étude sur le bonheur. Et donc, même si elle est parfois discutée, il y a quand même un certain nombre de critères qui permettent de savoir qu'est-ce qui fait que tu es heureux. Aussi, il y a des questions de la longévité, qui est un sujet qui monte aussi, beaucoup dans notre société en ce moment, en tout cas pour les gens les plus fortunés. J'ai envie de vivre longtemps. J'ai envie de vivre en bonne santé le plus longtemps possible. Donc, j'ai envie d'être heureux, j'ai envie de vivre en bonne santé le plus longtemps possible. Bon, comment tu fais? Parce que finalement, comme ça a été étudié, on connaît les réponses. Tu vois, c'est pas comme si c'était un grand mystère de savoir comment tu fais pour être heureux. D'abord, pour prendre soin de sa santé, de son corps. Tu faisais référence au corps. Comment tu prends soin de ta santé? Tu réduis ton stress. La deuxième chose, et c'est hyper intéressant, c'est tu construis des liens profonds et tu appartiens à une communauté. C'est hyper important de donner du temps à tes amis, à ta famille, à tes collègues, enfin aux gens qui sont autour de toi, un petit cercle. Et surtout, c'est important d'appartenir. Le fait d'appartenir, c'est un besoin intime, profond. Le troisième chose, c'est d'avoir de la joie. La joie, c'est extrêmement important. La joie, elle est dans ce que tu fais, dans l'impact, etc. Et effectivement, le quatrième, c'est d'avoir du sens. C'est extrêmement important d'avoir du sens, de savoir pourquoi tu fais les choses. Le cinquième, c'est d'avoir une bonne conscience de soi, donc de travailler sur soi, etc. Le sixième, c'est d'avoir de l'autonomie. Le septième, c'est d'avoir de la sécurité financière. Donc, on voit bien que, en fait, c'est assez facile, on sait. Et ce qui est intéressant, et moi, c'est la question et un des retournements que je fais et que je trouve intéressant, c'est puisque le fait d'accumuler ou le succès, ce qu'on appelle le succès, ou le fait de gagner, donc l'accumulation de biens, de pouvoir, de notoriété, etc., nous demande d'aller dans le sens strictement inverse, c'est-à-dire que quand tu accumules, tu prends pas soin de ta santé parce que tu bosses comme un con à courir dans ta roue. Comme tu bosses comme un con, du coup, tu prends pas soin de tes liens, t'as aucune joie, t'as pas d'impact, tu te développes pas individuellement. Tu as les derniers trucs, c'est-à-dire de l'autonomie, oui, et de la sécurité financière. Mais tous les premiers, en fait, tu les as pas. Et du coup, tu peux pas être heureux. Et en fait, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'on a à gagner à perdre l'essentiel? Tu vois, ta santé, parce que le stress, c'est la première cause de mortalité, ou en tout cas, c'est la première raison pour laquelle les gens tombent malades. Tu perds tes liens avec ta famille, tes amis, etc. Tu te sens seul, voilà. Tu n'appartiens pas. Et l'appartenance, c'est aussi un élément extrêmement important sur la longévité. Tu perds le sens, alors que tout le monde cherche du sens dans sa vie. Et tu perds l'habitabilité du monde. C'est-à-dire que tu es en train de détruire l'écosystème dans lequel tu vis. Et du coup, cette question de qu'est-ce que j'ai à gagner à perdre l'essentiel, moi, je trouve que ça, c'est un retournement qui est intéressant. Pardon, je me souviens même plus de ta question, mais je trouvais que c'était intéressant.
C'était dans le « qu'est-ce que j'ai gagné à perdre l'essentiel ?» C'est, je pense, une question de rhétorique qui est intéressante à poser, en effet, à chaque, j'imagine, à chaque dirigeant avec lesquels, ou chaque humain avec lesquels tu es en interaction, avec lesquels tu travailles. Parce que c'est vrai la personne, par défaut, a des préoccupations qui sont très spécifiques, très... elle a pas beaucoup de temps, elle a une surcharge cognitive, parce que moi, souvent, c'est ça que je vois aussi, qui bloque les choses, quoi. C'est vrai qu'une question comme ça, ça a l'efficacité, un peu comme la dialectique, de te faire prendre un petit point de recul d'un coup et de te dire, quand même, c'est vrai qu'il faudrait peut-être que je m'y attarde un peu sur cette question, quoi. C'est quoi l'essentiel?
En fait, il y a ça, et ce que tu disais sur les dirigeants, enfin, c'est ça ta question, c'est comment on convainc les dirigeants. Les dirigeants, finalement, en fait, ils ont ce genre de questionnement aussi, parce que c'est des êtres humains. Pas tous. Et il y a, par exemple, le patron de Total qui te dit, qui parle de François Genel, qui dit « Mais vous n'êtes pas dans la vraie vie, vous n'êtes pas dans le vrai monde. » Tu vois, il y a aussi ce côté dirigeant qui va dire « Oui, mais enfin, t'es bien mignon avec tes discours, etc. Mais t'es pas dans la vraie vie. La vraie vie, c'est l'économie, c'est l'argent, c'est la rentabilité. » Et là, en fait... D'abord, c'est intéressant de se poser, d'avoir cette croyance, parce que pour le coup, c'est une croyance, peut-être que l'argent est en soi-même une croyance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent. Enfin, l'argent, c'est un truc qu'on a inventé en humain pour créer des transactions, mais fondamentalement, il n'y a pas d'argent, et il y a tellement moins d'argent qu'avant, jusqu'à Bretton Woods, comme tout le monde le sait, c'était basé sur un étalon or, dont la valeur est aussi imaginaire. Hein. L'argent, l'or, ça n'a pas de valeur particulière, c'est un métal. Donc nous, on lui a donné une valeur. Donc voilà. Mais aujourd'hui, il n'y a même pas cet étalon or, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'en fait, l'argent, c'est un chiffre que tu as sur ton compte en banque Et parce que toi et moi, on est d'accord pour dire qu'un euro, ça vaut un euro. Alors du coup, on arrive à fonctionner ensemble. Mais en réalité, c'est un imaginaire. Il y a pas de réalité derrière ça. C'est pas la vraie vie. C'est pas l'argent ou l'économie. Tu vois, c'est pas vrai. La vraie vie, c'est l'habitabilité du monde. Tu vois, la science. Et à un moment donné, il faut remettre les choses à l'endroit où elles sont. La vraie vie, c'est quand même. Est-ce qu'on peut respirer un air sain? Est-ce qu'on peut avoir du silence? Est-ce qu'on peut avoir de l'humanité? Est-ce qu'on peut prendre soin et vivre le plus longtemps possible, etc. Et l'idée, encore une fois, c'est pas des mouvements de balancier qui est censé d'aller de gauche à droite et de dire que c'est tout d'un côté ou tout de l'autre. Évidemment pas. Et c'est souvent d'ailleurs, on a tendance beaucoup dans ce monde, je trouve, et en particulier à cause des réseaux sociaux, mais pas que, à binariser les points de vue. Moi, j'ai pas du tout un point de vue binaire. Je suis pas du tout en train de dire il faut tout balancer de l'autre côté ou tout balancer de l'autre, évidemment pas. Mais évidemment, encore une fois, je te parlais d'harmonie. Je préfère le mot harmonie au mot équilibre. Ben, en fait, il faut retrouver cette harmonie. Et là, clairement, on n'est pas dans une harmonie. On est en train de détruire notre propre santé, détruire la capacité des humains à se reproduire. On le voit dans plein d'études. On est en train de détruire la capacité de l'écosystème à nous soutenir. Bon, du coup, c'est ça, la vraie vie. la vraie vie, c'est pas l'économie. Et donc, tu peux avoir des conversations comme ça avec des dirigeants et qui vont te dire, du coup, oui, mais comment moi je fais à court terme? Et parce que moi, ok, je suis d'accord, okay, super, c'est super intéressant ce que vous dites, mais concrètement, le monde, il fonctionne pas comme ça. Et en fait, moi, j'en reviens à l'impact individuel. Là-dessus. C'est hyper intéressant de se rendre compte que les deux discours fonctionnent. C'est-à-dire, c'est vrai, tu vois, il y a un bon pote qui vient de faire un post aujourd'hui sur l'avion. Et je peux te tenir les deux discours. C'est vrai que si demain tu montes dans un avion, ça n'a aucun impact. C'est-à-dire qu'en réalité, l'avion, il va partir. Que tu sois dedans ou que tu ne sois pas dedans, ça ne change rien. Et en vrai, ça ne change rien. Et c'est vrai, ça ne change rien. Mais ça change tout aussi. C'est-à-dire que dans les imaginaires collectifs que t'envoies à tes amis, aux gens qui sont proches de toi, aux gens qui t'écoutent, etc., le fait que tu prennes l'avion, ça justifie le fait que eux prennent l'avion aussi, parce qu'encore une fois, on est des animaux sociaux. Et donc, pour les patrons d'entreprise, bien sûr, ils tiennent. C'est comme ça que le monde fonctionne. Soit. Mais si il y a de plus en plus de leaders qui commencent à fonctionner de manière différente, le monde, il va fonctionner de manière différente. Enfin, je veux dire, c'est pas un truc fixé dans le marbre. Ça peut complètement changer. Et moi, je crois que c'est pour ça que je parle de libérer sa puissance pour devenir un pionnier. Je crois qu'en fait, t'as tout intérêt à devenir pionnier aujourd'hui. Donc, à aller dans ce sens-là pour pouvoir être un leader demain, un leader du 21e siècle, un visionnaire du 21e siècle. Parce que c'est là que ça va se jouer, en fait. Et si tu es encore dans des croyances du 20e siècle, comme c'est le cas de ces personnes qui nous disent ça, ça fonctionne pas. Alors, tu vois, il faut pas non plus dire n'importe quoi et faire n'importe quoi. Tu peux pas sacrifier la rentabilité complète de l'entreprise pour ça. Mais la maximisation du profit et le non-partage des profits avec les salariés, donc ne pas mettre le care au centre, finalement, c'est pas non plus ce qu'on te demande de faire. C'est-à-dire que peut-être que les actionnaires le demandent et c'est plus dur dans les boîtes cotées, mais j'ai reçu aussi des patrons de boîtes cotées qui disent non, en fait, on va arrêter la croissance. Et voilà. Et moi, je trouve que ces exemples-là, ils sont hyper inspirants justement pour les gens qui écoutent et les gens avec lesquels je parle. Et j'arrive sans doute à les convaincre en leur donnant des exemples de patrons de grosses boîtes, de petites boîtes. Qui font ces transformations et qui font ces évolutions.
En définitive, tu arrives à trouver les personnes avec lesquelles il y a une certaine proximité, une certaine résonance avec toi, pour que du coup, tu puisses avoir ce discours commun, comme tu disais. Et en fait, eux, par répercussion, vont aussi pouvoir influencer et inspirer avec d'autres imaginaires des dirigeants qui sont peut-être un cran plus éloignés et du coup, créer des modèles d'entreprise qui sont basés sur des nouveaux modèles qui vont du coup, par répercussion, pouvoir faire leur petit bonhomme de chemin, quoi.
À mon niveau, je veux dire, je suis pas du tout seul à agir. Ouais. Il y a plein de gens, évidemment, ouais, heureusement, qui sont en train d'aller dans le même sens. Et ce qui est intéressant et ce qui va être rigolo, et je sais pas à quel moment va se faire la bascule, pour moi, c'est déjà fait dans ma tête, mais je sais bien que c'est pas du tout le cas dans le monde, c'est que tu seras pour réutiliser l'expression, mais un énorme boomer d'être encore dans cette logique d'accumulation. Tu vois, tu vas être là, mais what the fuck, tu vois. Mais parce qu'en fait, c'est en train de bouger. Tu vois, ce qu'on est en train de discuter là, aujourd'hui, ça peut sembler perché pour un certain nombre de personnes, peut-être. Ou en tout cas, déconnecté du monde réel, déconnecté de, faut bien que je paye mon loyer, faut bien que je paye à bouffer, etc. Bon. Mais on sait bien tous que, et d'ailleurs, c'est rigolo quand tu retournes vers Adam Smith, une de ses préoccupations, donc, pour revenir à l'économie, c'était, mais qu'est-ce que les gens vont faire de tout ce temps libre, en fait? C'était là vraiment la question qui se posait. Lui, il dit, le plus grand challenge des humains au XXe siècle, ça va être de savoir, mais qu'est-ce qu'ils vont faire de tout ce temps libre? Parce que la technique nous a permis tellement d'améliorer la productivité, on va pas non plus continuer comme ça à courir. C'est bon, en fait, finalement, on a réussi. Et en fait, on continue de courir. C'est fou, hein.
C'est clair. Et du coup, ça me revient à une dernière digression ou un dernier point. C'est j'ai une amie à moi qui est anthropologue, tu vois, et elle observe forcément qu'il y a des logiques de cycle, en fait, à peu près tous les 40 ans, où on reproduit plus ou moins les mêmes choses, mais avec des paradigmes qui sont plus ou moins différents. Et là, l'exemple que j'ai, c'est sur le sujet justement de le côté que tu disais d'être boomer, en fait, si tu veux continuer à avoir une espèce d'accumulation économique, mais autour du sujet plus de du pouvoir ou d'une posture sociale, ça me paraît encore plus touchy, en fait, sur ça. Parce que je sais pas si toi, tu observes un peu ça, mais tu as des gens qui s'éloignent de ce paradigme sur la partie économique accumulation, mais qui en font derrière un objet pour continuer à se positionner d'un point de vue social. Et en fait, on est sur un jeu qui est plus un jeu de sorte de pouvoir social et de posture sociale, donc limite proche de la politique, mais avec un grand P, que vraiment une vraie bascule de paradigme, tu vois, où du coup on rentre dans une ère où on a pris notre ego et on arrive à le remettre à la bonne place, et où on se met en coopération les uns avec les autres et on fait société de manière complètement complètement ouverte et interconnectée, tu vois. Je sais pas, toi, le sentiment
de cynisme là, c'est ça?
Je sais pas si c'est du cynisme, mais en tout cas, c'est de se dire, des fois, est-ce que on se rend vraiment compte de comment est-ce que on fait évoluer les choses, tu vois? Je donne un exemple tout bête, mais une personne qui, par exemple, va se positionner comme étant vraiment engagée d'un point de vue écologique et qui, du coup, va régulièrement faire des posts sur LinkedIn pour dire, regardez, j'ai pas pris l'avion, je prends le train, regardez, j'ai acheté des baskets Veja plutôt que d'avoir acheté d'autres baskets. Et en fait, comment ça se crée une culture, en fait, de positionnement social par rapport à tous ces attributs qui disent « je suis quelqu'un d'engagé, je suis quelqu'un de bien pour la société, je suis potentiellement pionnier ou en avance par rapport aux autres ». Et du coup, on est en train de réutiliser des choses pour le même but, qui est de se dire « je me positionne d'un point de vue social ». Et qui peut créer au final les mêmes problèmes, parce qu'il va y avoir des jeux de pouvoir, il va y avoir, tu vois, et on peut se manger comme souvent. Ouais.
Est-ce que, enfin, alors... C'est intéressant ce que tu dis. Pour moi, il y a deux choses. La première, c'est sans doute qu'il y a des personnes qui vont se positionner pour appartenir, mais en fait vont agir dans l'autre sens. Et en même temps, c'est un chemin qui est long. Moi, j'ai pas du tout fini avec mes contradictions.
Je pense que
toute ma vie, je vais un peu galérer sur mes contradictions, parce que, tu vois, j'ai 47 ans, je suis complètement né dans cette ère d'accumulation. Et par ailleurs, considérant mon histoire personnelle, j'ai passé beaucoup d'énergie à essayer justement d'arriver à cet endroit et faire l'accumulation. Et du coup, il faut que je déconstruise au fur et à mesure maintenant que je détricote le truc. Et c'est pas facile. Et pour ça, moi, je jette la pierre à personne sur ces sujets. Je trouve que c'est très compliqué. Je jette un chouïa à la pierre aux gens qui n'ont pas conscience et qui refusent même de. Après, sur ce que tu dis, c'est-à-dire les gens qui vont utiliser des attributs, c'est-à-dire des efforts qu'ils peuvent faire pour faire des marqueurs sociaux, bon, pourquoi pas, hein. Enfin, je veux dire, moi, ça me va bien dans la mesure où ça fait bouger la société. C'est-à-dire que plus il y a de gens qui te disent, je suis parti en vacances en vélo, tiens, maintenant, moi, je prends plus la voiture. D'ailleurs, j'ai jamais de voiture. C'est pas tout le monde peut faire ça, etc. Mais enfin, ça fait bouger. Du coup, tu te dis, attends, est-ce que mes vacances, j'ai vraiment envie de les faire à Punta Cana? Ou est-ce que je peux, justement, ça peut être plus fun de partir à côté en vélo, ou pourquoi pas même en voiture, mais rester, ou en train, idéalement, rester en France ou en Europe. plutôt que de partir dans un pays lointain où finalement, la seule chose différente que je vais voir, bah, c'est la couleur des gens éventuellement, mais parce que en fait finalement quand tu, enfin moi j'ai pas mal voyagé pour le coup, bah la réalité c'est que en raison de la mondialisation et parce que on est fait comme ça, on a tendance, même quand tu vas dans un endroit qui est censé être différent, à aller dans les endroits, dans cet endroit différent, à des endroits qui nous ressemblent, dans lesquels on se sent confortable, donc des hôtels, des restaurants, des machins. Ouais. Donc finalement, il y a de moins en moins de différences quand tu vas dans un autre endroit. Et donc t'as peut-être pas besoin absolument d'aller je ne sais où pour te changer les idées, parce que ce que tu cherches finalement c'est de te changer les idées, et parfois juste de faire une marche en montagne ou d'aller à la plage ou je ne sais où, en tout cas de te mettre ailleurs, bah, ça fait le job. Et moi, plus il y a de gens qui promeuvent ce mode de vie, plus ça me va. Après, il y aura toujours des jeux sociaux, d'appartenance, de machin, et du coup ça me choque pas et ça me dérange pas qu'il y ait des gens qui fassent ça. Pour le coup, ça, je préfère que les gens disent, ben voilà, moi j'ai pas pris l'avion, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, que des gens qui mettent sur Instagram des photos d'avion.
Oui, oui, non,
qui promeuvent encore cette idée que l'avion c'est cool.
Non, je
prends l'avion. Hein, je veux dire, je vais à Lisbonne, je prends l'avion de manière assez régulière pour aller à Paris. Donc, encore une fois, je suis pas du tout dans une sorte de jugement de l'avion ou quoi que ce soit, mais tu vois, tu me verras jamais mettre sur Instagram une photo dans un avion, quoi.
Ouais, oui, non, c'est sûr.
Je l'ai fait, hein. Je l'ai fait. Jusqu'au moment où j'ai réalisé que, genre, moi-même, à mon petit niveau, à mon micro-niveau, évidemment, on a tous des micro-niveaux, plus ou moins, mais, bah, on envoie des imaginaires.
Oui, c'est ça. Non, mais c'est pour ça, la step 1 qui est de se dire, il y a un envoi d'imaginaires sur des choses qui sont beaucoup plus, plus adapté à ce qu'on doit faire, comme le fait de moins voyager en avion, le fait d'aller dans la forêt, le fait de porter des vêtements qui sont mieux produits, enfin tous ces trucs-là, je suis complètement d'accord avec toi. Mon point, c'était plus sur le côté alerte, enfin en tout cas signal faible à surveiller, qui est le fait que tu parlais d'une volonté d'être dans une société qui avait plus d'harmonie, et donc du coup qui est basée sur des paradigmes qui sont différents en fait des paradigmes actuels. Et vu que là on est dans une société encore de très capitalistique et de concurrence, et donc de jeu de pouvoir très fort, j'ai l'impression qu'il faut toujours être en observation, de dire, alors avec tous ces changements et tous ces nouveaux attributs, ces nouvelles manières de faire, est-ce qu'on les utilise vraiment pour rentrer dans une forme de nouvelle manière de fonctionner ensemble et de faire société différemment? Un ami qui est sur Lyon, qui s'appelle Olivier Frérot, parle d'une sorte d'entrée dans une forme de nouvelle civilisation. Tu vois, il a écrit un bouquin sur ça, sur une bascule de civilisation.
Je crois que c'est ce que
voilà, c'est ça. Ou est-ce que, sur le chemin, sans faire vraiment attention, on se retrouve à utiliser les nouvelles choses pour le même fonctionnement de fond qui est de se dire...
Ego trip.
J'essaye de quand même garder une position de pouvoir. J'essaye de quand même garder une position qui est assez proche des flux économiques, parce que les flux économiques vont être orientés différemment. Mais du coup, si je me positionne là, ben, je serai au bon endroit. Mmh. Et du coup, même pas forcément de manière mal intentionnée, tu vois, juste parce que on est dans ces patterns et on est dans ces fonctionnements depuis tellement longtemps que en voulant bien faire, et ben en fait on réitère les mêmes choses, et que du coup il peut y avoir un effet qui soit complètement déceptif et inverse que ce qu'on cherche, quoi. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a un côté attention à ça. Je sais pas si toi t'as ce sentiment, ou les gens avec lesquels tu discutes dans les podcasts ont, les sociologues, les anthropologues ou d'autres experts ont aussi ce sentiment de fond.
Si. Ben, il y a Fanny Parizet qui est anthropologue aussi, qui a écrit un bouquin passionnant
c'est
sur.
C'est de elle que je parlais, ouais, c'est une amie, ouais.
Ah, voilà. Fanny, bah, que j'ai reçue, hein, bien sûr, qui fait mal. Fanny.
J'aime bien.
Qui a écrit un bouquin passionnant là-dessus, justement. Il y a ça. Est-ce que. Enfin. Donc, il te dit finalement, on ne sacrifie rien parce qu'en fait, tu ne sacrifies que des choses qui ne comptent pas vraiment pour toi. Ou qui vont dans ton sens, c'est-à-dire bah je mange moins de viande mais en fait je le fais pour ma santé, je trie mes déchets mais en fait bon ça me demande un effort qui est tellement ridicule que voilà, et parce que tu fais ça tu te dis ah bah du coup j'ai le droit de avoir un SUV quoi. Et bon on fait tous un peu ça, c'est humain je crois, et le fait de promouvoir de manière sociale pour avoir du pouvoir, c'est un biais humain qui est, enfin, moi, je suis pas ça. Je pense que c'est ok. De... Je trouve ça, c'est rigolo à regarder en fait. Enfin, moi, j'observe, mmh. et je trouve ça rigolo à observer. Mais je dis ça et je ne pense pas être complètement sorti. Enfin, moi-même, je pense que je j'ai pas l'impression de le faire de trop. Mais sans doute que je le fais aussi, tu vois. Enfin, je vais pas dire, j'ai pas pris l'avion parce que déjà ce serait pas vrai, mais je vais pas dire, ah bah tiens, j'ai jamais eu de voiture ou peu importe, ou je mange très peu de viande. Ou... je vais pas promouvoir ce genre de choses, mais dans ma posture, enfin, je crois que ma posture, elle est, parce qu'en fait, quand tu critiques comme ça, c'est toujours intéressant de revenir à toi et de se dire, attends, est-ce que moi, c'est pas dans une de mes, dans une zone d'ombre? Quelque part, ouais, ouais, ça l'est nécessairement, hein, je veux dire, je suis pas, je reste un être humain comme tout le monde, comme toi, et on a tous nos biais, tous nos d'ombre. Et donc, quand tu critiques quelque chose, c'est toujours intéressant d'observer à l'intérieur de toi, est-ce que c'est le cas ou pas. Donc, quand tu me poses la question, je me dis, attends, je regarde sur moi avant de dire quoi que ce soit, est-ce que moi-même, je suis pas justement dans ce paradigme? Je pense que j'y suis aussi d'une certaine manière, et j'invite d'ailleurs tous les gens, quand il critique quelqu'un sur une chose ou une autre, de se poser la question sur « Attends, qu'est-ce que c'est chez moi ?» de manière assez honnête, tu vois, de dire « Regardez, bon, alors attends, qu'est-ce que je fais ?» Et donc, moi, je me force de constater que je dois le faire. Et c'est pour ça que je pense que ça reste humain d'avoir ce petit penchant à vouloir avoir une forme de pouvoir par une mise en avant sociale, tu vois, enfin, que ce soit, ouais, je pense que c'est assez naturel, enfin, pour le coup.
En tout cas, je trouve que c'est déjà vachement précieux ce que tu fais comme exercice, de te dire, je vais regarder déjà, moi, comment je vis les choses par rapport à un sujet. Il y a une personne que j'ai rencontrée récemment qui me disait, à chaque fois que tu critiques quelqu'un dans ta tête, genre, tu dis, ouais, cette personne, ce qu'elle est en train de faire, c'est atroce, tu rajoutes à la fin, comme moi. Et du coup, tu vois ce que t'en fais avec ça. Et c'est vrai que c'est un exercice que je te rejoins, j'essaie de faire régulièrement. Si je me dis, c'est dégueulasse ce qu'il vient de faire et tout, comme moi. Alors attends, ouais, c'est vrai que des fois, je fais des trucs dégueulasses comme ça aussi, où je fais pas attention et où je fais de la merde et tout. Et du coup, c'est. Mais tu vois, ça en vient à ça. Je trouve que c'est intéressant, peut-être pour faire le lien avec tout ce qu'on a dit, pour conclure. Tu vois, on parlait du terme de la spiritualité. Et je trouve que la spiritualité, c'est quand même quelque chose qui demande une énorme humilité, parce qu'on ne sait pas de quoi on parle, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas où on va. Enfin voilà, c'est la vie, quoi. Et du coup, c'est totalement connecté à la sincérité, à ce côté d'essayer d'être le plus conscient possible de tout ce qui s'agite en nous et ce qui fait qu'on va à gauche, on va à droite, on prend telle décision, telle critique ou quoi que ce soit. Et c'est là où ça change tout, je pense, c'est d'arriver à se connecter à ça et s'entraider les uns les autres, à se connecter à ça pour être le plus juste possible, quoi. Et je trouve que l'interaction du podcast, tu vois, le travail que tu fais en interviewant des gens, en discutant avec des dirigeants, bah, c'est, j'ai une psychanalyste qui parle de ce terme-là, tu vois, de transfert, en fait. Je pense que c'est, par l'interaction avec quelqu'un, il y a ce transfert qui se fait dans le fond, duquel on parle pas, mais qui peut faire en sorte que la personne, bah, elle reparte en disant, ah ouais, il y a une personne en face de moi qui était complètement sincère et qui a des intentions qui sont complètement ouvertes et cette humilité. Bah, moi aussi, ça me donne envie d'être un peu plus imprégné de ça. Je sais pas si tu sens, toi, ce transfert qui se passe à chaque fois que tu es dans l'interaction avec
eux. Bah, c'est ce que j'essaye de faire. Moi, en tout cas, c'est c'est mon ikigai ou c'est ma raison d'être, ou c'est ce que tu veux. La transmission, c'est vraiment ce qui me fait plus plaisir. Et en fait, moi, j'ai beaucoup de joie à trouver des, t'as peut-être remarqué là dans la discussion, mais j'ai beaucoup de joie quand je trouve des idées simples qui permettent à un grand nombre de personnes de comprendre une problématique complexe. Tu vois, le rapport au corps humain, par exemple, moi, je trouve ça génial. Je suis hyper content et ça m'apporte beaucoup de joie. Et quand je j'observe chez les autres une forme de compréhension, mais qui demande aussi, effectivement, t'as raison, une part d'humilité à l'origine. C'est-à-dire que si toi, t'es pas dans une forme de vulnérabilité ou sans tomber dans le pathos, tu vois, mais si t'es pas dans cette forme de vulnérabilité où tu dis, bah ouais, tu vois, ce que j'ai fait, que tu me poses la question, je suis attends. Et je parle de moi, ça peut sembler hyper égocentrique, mais je le fais pas de manière égocentrique, c'est plus parce que je regarde, attends, concrètement, avant que je dise quoi que ce soit, où est-ce que moi je me positionne par rapport à ça? Bah, je trouve que ça permet aux autres d'être plus à l'aise aussi avec eux-mêmes et leurs contradictions et leurs zones d'ombre et ça, ouais, ça m'apporte de la joie et j'adore faire ça. effectivement, transmettre et avoir ce micro-impact chez les gens.
Ouais, t'arrives à toucher une vraie interaction et une vraie relation, quoi, si on en vient sur le terme que tu disais au début. Écoute, j'espère qu'on a eu un moment de relation, d'interaction qui était agréable autant pour toi que pour moi. Merci pour cet échange. Je sais pas si tu as le classique des podcasts, mais je sais pas si tu as quelque chose à partager pour finir, une dernière idée, une dernière envie ou une actu, justement, pour les gens qui vont regarder ça.
C'est une bonne question. Est-ce que j'ai une dernière idée? J'ai plein d'idées. J'ai tellement de choses en tête, mais qu'est-ce que je pourrais te dire qui serait intéressant? C'est ça la question. Je pense que non, cette notion de qu'est-ce qu'on a gagné quand on perd l'essentiel, moi je trouve que ça c'est une vraie bonne question qu'il faut se poser. Une autre question que j'ai trouvée intéressante, qui a été posée par Miguel Dandrieux d'ailleurs, c'est, on parle beaucoup d'écologie punitive, mais est-ce que c'est pas aujourd'hui qu'on est pauvre et que demain on sera dans l'abondance? Tu vois, quand on parlait de retournement. Parce qu'aujourd'hui, on est pauvre de temps libre, on est pauvre de santé, on est pauvre d'air pur, on est pauvre d'une eau saine, on est pauvre de silence, on est pauvre d'humanité, on est pauvre de tout ça. Et pourtant, on appelle ça riche. Et demain, on pourrait être en abondance de tous ces trucs-là. Et peut-être moins dans l'accumulation. Mais est-ce que vraiment on a besoin de tout accumuler? Et est-ce que donc, du coup, cette nouvelle civilisation, elle n'est pas dans l'abondance des choses qui sont importantes et qui comptent.
Et du coup, ça ferait le lien, comme tu disais, c'est pas où c'est et. Et d'un côté, il y a peut-être cette société qui va être beaucoup plus complexe et qui va vivre des choses qui vont pas être faciles du point de vue qu'on a aujourd'hui. Et en même temps, peut-être qu'il y aura plus d'harmonie et où du coup, on sera plus dans la richesse et dans l'abondance de choses qui sont intérieures plutôt qu'extérieures, quoi.
Exactement.
C'est pas forcément un peu facile à intégrer, mais... ouais. Que ça fera ça.
Exactement.
Ce qui est assez optimiste comme vision que je partage, ça m'aide aussi à me lever le matin pour faire des choses qui sont cool. Merci, merci pour tous ces partages et cet échange et cette sincérité aussi. Et puis écoute, je te dis à bientôt. Si t'as plein d'idées en tête, moi, j'hésiterai pas à revenir te chercher pour continuer à creuser des sujets.
Parfait. Merci à toi.
Merci. Salut.